Parfait. Merci déjà à Florian et à Sandrine de m'inviter ce soir. Puis merci à ceux qui sont venus, hein. De toute façon, les absents, c'est toujours les absents qui ont tort. Moi, je suis enseignant et chercheur à la faculté de géographie de Strasbourg. Donc, c'est pas dans ce bâtiment, mais c'est pas très loin, là. Rue de l'Argonne. Et puis, ça fait quelques années que je travaille sur les sols. J'avais fait il y a quelques années déjà une thèse sur les sols, plutôt en dehors de la ville. Donc, ma spécialité, c'est les sols, pas seulement, mais pas tellement les sols urbains. Et c'est pour ça que je vais vous faire un petit peu une présentation hybride ce soir, comme l'a dit Florian, quelque chose un petit peu de didactique sur qu'est-ce que c'est un sol. Après, je vous parlerai un petit peu de mes travaux, et puis après, on essaiera de discuter ensemble des sols urbains. Alors, je vais vous proposer en fait tout de suite une partie interactive. Alors, c'est là, j'espère que ça va marcher. Vous allez avoir, vous, si vous jamais vous n'avez pas de téléphone. Vous pouvez jouer avec votre voisin, on peut jouer à plusieurs, enfin, on peut participer à plusieurs. Si vous n'êtes pas non plus trop fan du QR code là que vous pouvez scanner, sinon vous pouvez simplement taper sur votre téléphone WooClap. Prenez votre temps et là, je vais juste vous poser une question. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste, et puis ensuite, mais tout à l'heure on jouera un peu plus avec, c'est pour ça, c'est pour s'échauffer, comme ça vous serez déjà connecté. Parce qu'il n'y a pas de réseau en fait, il n'y a pas de réseau en fait.
Ah, le réseau ici est très mauvais. Par
Ah,
contre,
c'est vrai qu'on est à l'université.
ouais. Bah, sinon je que j'ai pas demandé
De Paris, j'ai même pas.
j'ai pas
Il n'y a
demandé
pas de réseau en fait. C'est vrai?
Ouais, j'ai le cadet qui passe par là.
Non, et j'ai pas pensé à ça, mais du coup j'ai pas demandé de connexion invitée. Vous avez pas ça sur Osiris?
Non, je n'ai pas pensé
Voilà,
qu'il y a.
j'arrive à identifier. Ah, bah oui,
Ouais, mais j'ai pas demandé de truc
Non,
invité.
non, mais on va pas demander aux gens de se connecter là. Je pensais pas que c'était à ce point
Si,
qu'il n'y
c'est
avait
bien.
pas de réseau en
C'est bien.
fait.
Il y a des tas de
Et alors
zones
le
blanches.
code, le
Non, c'est
code de
moi, ça me
l'événement.
rassure.
Parce que vous n'avez pas de réseau ou vous n'avez pas d'Internet sur
Moi,
votre
j'ai pas
téléphone?
d'internet sur
Ouais,
moi.
ouais, ouais.
Ah oui, c'est ça, moi, je parle.
Parce qu'il n'y a pas besoin de. Enfin, il faut juste cocher une case. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a rien à
Mais je
rien à
serai à
télécharger.
l'aise.
Il n'y a rien à télécharger. Hein. Il
On
y a
peut même
juste.
aller là.
Ouais, vous pouvez. Ouais.
À l'ancienne.
Vous allez voir que normalement.
On n'est pas 3000.
Normalement, ça
C'est très
marche
gentil.
pas. Normalement, ça marche pas comme ça, mais c'est pas grave. Alors, non, non, mais on va pas se compliquer la vie. Tant pis, je vais sauter la première étape. C'était un peu inspiré par des. Comment je repasse ce truc-là?
C'est comme ça qu'on intéresse les étudiants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de PC maintenant.
Non, mais parce que j'ai fait ça récemment avec mes étudiants. En 30 secondes, tout le monde était. Mais les étudiants, ils ont un accès au Wi-Fi de l'université. Alors, c'est sur lequel que je dois cliquer là pour
C'est
repasser?
les trois petits boutons à gauche, en haut. On va passer en premier plan.
Ok, ça marche. Ok, alors j'avais déjà donné une conférence il y a quelques années pendant le confinement dans le cadre de ce cycle de conférences Sol en ville, et puis j'avais appelé ça Que se passe-t-il sous nos pieds? Et donc là, je me suis pas trop fatigué, j'ai juste rajouté trois petits points Que se passe-t-il sous nos pieds d'urbain, parce que c'est quand même la thématique de Sol en ville. Donc je vais pas que vous parler de sol urbain, mais je vais aussi vous en parler, ou on va aussi en parler tout à l'heure. Ok, donc je vais ce que, mais je pense pas que, enfin je sais pas, parce que comme c'était en distanciel, je n'ai aucune idée de qui a déjà vu cette conférence ou pas, mais l'introduction c'est un petit peu la même, parce que depuis 4 ans, les sols ils ont pas tellement, ou la science du sol n'a pas tellement changé. Je vais vous, plutôt que d'essayer de commencer par vous dire qu'est-ce que c'est un sol pour moi, parce que vous verrez tout à l'heure d'ailleurs que surtout quand on commence à venir en ville, il peut y avoir plein de façons de voir le sol différemment ou plein de ou des sols tellement différents que c'est parfois difficile de s'entendre sur qu'est-ce que c'est. Et donc je vais d'abord vous dire ce que ça n'est pas. Pour moi, un sol, un espèce de portrait chinois inversé. Et donc, ce n'est pas une surface, hein, parce que si vous tapez sol sur Google, vous allez trouver plein de moquettes et de parquets à acheter dans les grandes surfaces de bricolage. Et avant d'arriver sur une image de sol ou sur un schéma de sol, comme on peut le voir à côté, il va se passer quelques pages de quelques liens Google commerciaux. Donc ça, c'est la première chose importante pour moi. Un sol, ou en science du sol, un sol, c'est défini comme un volume et pas simplement comme une surface. Donc c'est pas non plus juste une couche de goudron ou une dalle de béton. Le sol ensuite, deuxième chose que ça n'est pas, ça c'est souvent plus pour mes étudiants en sciences de la terre, ça n'est pas pareil que des sédiments, ou ça n'est pas non plus des roches, des cailloux si vous voulez, ça c'est plutôt en sciences du sol, nous ce qu'on va appeler le sous-sol. Ici je vous ai mis... c'est l'exemple des grès là qui sont bien visibles, c'est au château du Haut-Barre là derrière Saverne. Ça c'est ce qu'on appelle des strates, c'est des sédiments bien empilés. Non, le sol c'est ce volume, c'est cette couche relativement fine hein, en zone tempérée l'ordre de grandeur c'est de 1 mètre et qui est vraiment l'interface qui est vraiment à la surface de la Terre. Donc c'est pas une surface, c'est un volume, mais c'est ce petit volume, en fait. Si on prend l'échelle de la planète, c'est extrêmement mince, mais c'est extrêmement important parce que c'est ce volume qui est au contact entre l'atmosphère et la lithosphère. Donc, c'est aussi, d'ailleurs, ce volume sur lequel on marche. Ensuite, autre confusion en fait ou autre terme dans lequel on retrouve sol, c'est dans l'expression occupation du sol. Et c'est vrai qu'en géographie on utilise aussi beaucoup ce terme. On va dire voilà l'occupation du sol. Ici on a des champs, ici on a des immeubles de la ville, etc. Comment est-ce que les choses se répartissent à la surface du sol. Et du coup, derrière ce terme occupation du sol, souvent, on comprend plutôt ce qui est au-dessus du sol, souvent des constructions humaines d'ailleurs, ou des choses très transformées par l'homme. Moi, je vais vous parler de ce qui est en dessous. Et puis surtout, ce qui est très important aussi dans ce volume, j'ai parlé d'interface entre l'atmosphère et la lithosphère, mais il y a aussi tout le vivant. C'est ce volume, il abrite le vivant, et il abrite même une grande partie du vivant. Hein, c'est très à la mode maintenant de parler de biodiversité. Alors souvent, quand on parle de biodiversité un peu pour le grand public, on va parler de grands mammifères en disparition ou d'espèces un petit peu emblématiques. Mais l'immense majorité en fait des espèces sur Terre et de la biodiversité, elle est abritée dans le sol, soit complètement dans le sol, soit elle en partie dans le sol, en partie à la surface. Hein. Puis ici, j'ai mis quelques exemples. On voit quand j'anime ma souris, parfait. Là, les fameuses taupinières, hein, donc des petits mammifères, mais qui vivent dans le sol, mais qui se font quand même bien voir par leurs petites constructions qui dépassent un peu du sol. Ici, ça, c'est une trace de vers de terre, en fait, qui a ressorti un petit... qui a une sorte de tiricule à la surface du sol. Et puis je vais vous montrer encore après plein de petites bêtes qui vivent dans le sol. Alors une autre notion, mais après je veux pas rentrer trop dans les aspects techniques, mais le sol c'est aussi vu comme une superposition de plusieurs volumes ou de plusieurs couches si vous voulez. Et ces couches en sciences de la Terre, on les appelle des horizons. C'est un peu contre-intuitif parce que l'horizon, dans le langage courant, c'est ce qu'on peut voir quand on est sur la plage ou quand on est dans un paysage dégagé. On peut observer l'horizon, mais bizarrement, il y avait d'ailleurs un scientifique célèbre qui avait dit les pédologues, c'est des personnages curieux qui creusent des trous pour voir l'horizon. Et donc effectivement, ces différentes couches, on appelle ça des horizons. C'est justement aussi pour se distinguer un petit peu des strates qu'on voit plutôt en géologie. Et puis aussi, c'est souvent parce que en science, on aime bien avoir ses propres termes, donc couches ou c'est pas très joli, c'est un terme très générique. Donc on appelle ça des horizons. Et ce qui est important aussi, c'est justement que c'est ce qui fait la particularité de ces horizons, c'est que c'est pas des choses qui se sont empilées les unes après les autres. C'est des choses qui se sont réorganisées. En fait, souvent, les horizons inférieurs se sont enrichis avec des éléments de l'horizon supérieur. Les horizons supérieurs ont des propriétés qui sont liées justement aux animaux, à la faune qu'ils habitent, aux êtres vivants qui l'habitent. On voit aussi ici des racines, la répartition des racines, c'est aussi quelque chose qui va définir en fait ces différentes couches. Et puis souvent les derniers horizons là, les plus en profondeur, bah ils vont commencer à ressembler de plus en plus quand même au sous-sol, à la roche, aux cailloux progressivement. Donc on a toujours cette notion d'interface où on a le vivant, puis l'atmosphère au-dessus, et puis les cailloux et la lithosphère. Mais entre, il y a cette fameuse couche qui est hyper importante pour le vivant et puis pour plein d'autres fonctions. Alors j'ai mis ici quelques photos. Ça va, il est pas trop mal le vidéoprojecteur. J'ai mis quelques photos de sol, de coupe, donc qu'on a fait dans des sols dans la région, un petit peu pour montrer en fait la diversité des sols qu'on peut trouver. Ça, c'est ce qu'on va appeler un sol brun acide qu'on va retrouver énormément. Dans les Vosges, un sol forestier typique qui est souvent très acide, qui est pas très fertile. C'est d'ailleurs pour ça aussi que souvent ces terrains ont été laissés entre guillemets à la forêt ou à la production de bois parce que c'est pas des sols qui sont extraordinaires. Ici, je vous ai mis un autre exemple de sol sur calcaire. Ça s'appelle une renzine. C'est aussi pour vous montrer en fait que ces volumes, ils peuvent être très, très variables. J'ai dit que l'ordre de grandeur, c'était de 1 mètre. Mais parfois, on a aussi des sols qui sont très peu épais. Vous voyez ici, au bout de 20 centimètres, on est quasiment déjà sur la roche. Ensuite, le troisième exemple, c'est un podzol. Alors ça, c'est un sol qui est vraiment emblématique, qui est souvent présenté comme modèle en science du sol, parce que vraiment, il a ses couleurs qui sont et ses différents horizons qui sont extrêmement contrastés. Donc, c'est vraiment facile, en fait, de montrer qu'il y a différentes couches en science du sol. C'est aussi un sol qui est très peu fertile. C'est d'ailleurs un des moins fertiles. Et il est si peu fertile et il est pas très agréable non plus pour la faune. Les vers de terre l'aiment pas. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de brassage dans ce sol. Et c'est aussi pour ça que les horizons sont aussi nets, parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime bien aller creuser des trous dans ce sol, mis à part les pédologues. Et puis là, un autre type de sol, encore bien épais, bien avec beaucoup de matière organique, là, qui donne cette couleur sombre, là, sur plusieurs décimètres de profondeur. Et ça, c'est le sol typique des hautes chaumes vosgiennes, là, donc les parties vraiment les plus en altitude qu'on trouve du côté là des ballons des Vosges et qui ont leur spécificité. Et puis c'est cela aussi dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. Alors toujours pour découvrir en fait les sols, un autre jeu, mais celui-là vous pourrez jouer à la maison si vous voulez, vous pouvez le télécharger ou vous pouvez jouer avec vos enfants ou même pas, ou avec qui vous voulez. C'est un jeu des sept familles, c'est assez basique sur le plan ludique, mais c'est des familles à chaque fois qui sont liées avec le sol. C'est l'Association française d'études des sols qui édite ce jeu. Ils en avaient distribué quelques-uns, mais on peut l'imprimer si on veut et découper les cartes. Et tout ça pour vous montrer en fait un petit peu les différentes familles. Là, il n'est pas hyper emblématique, c'est le castor, mais il creuse aussi des trous. Et puis, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la mégafaune. C'est du point de vue du sol, hein, la mégafaune. C'est pas des rhinocéros, c'est des castors, des taupes pour les pédologues. Ensuite, on a ce qu'on appelle la macrofaune. Là encore, hein, ils sont pas hyper impressionnants, mais ils sont hyper importants. Et là, parmi les petites bébêtes qu'on va trouver dans la macrofaune, il y a les vers de terre. Et les vers de terre, ils sont extrêmement importants dans le processus de construction des sols. C'est vraiment, on les considère souvent comme les architectes du sol. Il peut y en avoir énormément dans un sol. Hein, ça peut représenter une biomasse relativement importante. Et c'est vraiment les amis un peu des pédologues. Eux aussi, ils creusent. Et puis après, il y a des plus petites bêtes encore, même si on les appelle encore la mésofaune, et qui sont un peu moins connues. Alors, les acariens, ils sont connus parce qu'ils ne sont pas que dans les sols, et puis il y a des gens qui ne les supportent pas bien. Puis, il y en a qui sont un peu plus rigolos. Là. Moi, j'adore celui-là, là, le tardigrade, qui ressemble un peu à un sac d'aspirateur. Mais il a l'air tout à fait sympathique. Mais il est beaucoup trop petit pour qu'on puisse l'observer à l'œil nu. Et puis après, évidemment, il y a les plus petits qui sont présents partout, mais qui sont très présents dans les sols, les bactéries, évidemment, et les champignons. Alors, on a l'habitude de donner ces chiffres, d'ailleurs, qui sont tellement déments qu'on a du mal à se rendre compte que dans un gramme de sol, il y aurait 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Il y a aussi des chiffres comme ça sur les kilomètres de filaments de champignons qu'on peut trouver dans un centimètre cube de sol. C'est aussi complètement délirant. Donc, on peut dire que le sol, c'est vraiment le royaume des bactéries et des champignons, qui évidemment font tout un tas de symbioses, d'interactions entre eux, avec les racines des plantes. Donc, vraiment le règne animal, on pourrait dire, dans toute sa splendeur. Dans toute sa partie aussi, pas visible à l'œil nu, qui fait que c'est moins connu que les taupes et les rhinocéros, mais hyper, hyper important pour la biodiversité, hyper important pour la vie et hyper important pour le fonctionnement de nos sols, parce que c'est aussi ces petites bêtes, toute cette vie, elles mangent, il y a une chaîne alimentaire et il y a des cycles, en fait, chimiques. Ils mangent tout ce qui est organique, donc ils relarguent du CO2. Vous avez peut-être déjà entendu parler du CO2. Donc il y a un cycle du carbone et du CO2 dans le sol qui est contrôlé en grande partie là par ces deux familles de bactéries et de champignons. Donc c'est extrêmement complexe le sol. Hein, c'est encore aussi un front de science, on pourrait dire, dément, parce que évidemment, vous vous doutez bien là que ces 4000 espèces bactériennes, ça, c'est un petit peu des ordres de grandeur jetés en pâture, mais on les connaît pas forcément toutes les bactéries. On n'est pas là tous les matins à les compter. Idem pour les champignons, c'est extrêmement complexe. Et du coup, quand on ramène un petit échantillon de sol au laboratoire d'une centaine de grammes, on va mesurer souvent des paramètres assez simples, mais derrière, comme par exemple la quantité de carbone, mais derrière, il se passe des processus extrêmement, extrêmement complexes et qui sont encore finalement assez peu connus. Alors, toujours dans le jeu des sept familles, un petit peu de culture scientifique, il y a aussi Charles Darwin. Alors, on pourrait se demander pourquoi il y a Charles Darwin. Il est connu plutôt pour la théorie de l'évolution, mais il a aussi publié, en fait, il a aussi fait des publications importantes sur justement l'importance des vers de terre sur le développement des sols, et presque il est considéré par certains pédologues comme le premier scientifique à s'être intéressé au sol et avoir compris un certain nombre de choses sur les sols, et il est moins connu pour ça, mais il est quand même très connu, donc on aime bien le rappeler. Et puis voilà, bon, une dernière petite photo sur les racines, c'est ultra basique, tout le monde a sans doute déjà vu des racines, mais quand même pour rappeler que le sol, c'est quand même le support de toute la végétation, et sans sol, pas de végétation, ou sans sol, une végétation de type lichen ou algue, mais que pour avoir de la végétation, des forêts, des cultures, tout ce qu'on veut, il faut du sol, et il faut un sol vivant. Voilà, donc ça c'était pour donner un petit aperçu de ce que c'est le sol pour moi. Alors je vais pas tout, finalement quelque part c'est bien de pas tout de suite rentrer en ville, parce que ça serait peut-être un peu violent après avoir vu tout ce vivant et puis arriver vers quelque chose de plus aride. Alors entre-temps, je vais vous parler un petit peu de recherche que j'ai menée depuis quelques années déjà. C'est pour ça que là, j'ai encore un petit peu modifié le titre, ou c'est le titre de la sous-partie. Que s'est-il passé sous nos pieds ? Parce qu'en fait, c'est ça mon vrai travail de chercheur, c'est de chercher dans les sols des traces de la végétation ancienne, ou des traces du passé de manière générale, parce que ces sols, ils contiennent aussi des indices, et on peut mener un petit peu comme une enquête sur ces sols. Alors ça se passe où ? Ça se passe, ce que je vais vous présenter là, ben, dans les Hautes-Chaumes-Vosgiennes. Je vous ai dit, je vous ai montré tout à l'heure le Ranker, je vais vous le remontrer. Ici on a le sommet du Honeck. Alors peut-être que, je ne sais pas trop, sans doute la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà ces paysages. Alors c'est là que ça devient un petit peu une soirée diapositive. Ça, c'est la chaume du Rosberg. Hop. Alors ici, on est de nouveau au Neck. C'est un petit peu un point de vue différent. Et puis, ce qu'on peut regarder ici, là, ce qu'on peut voir là, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus d'arbres. Je crois que c'est ce que je voulais montrer aussi tout à l'heure sur le Rosberg. Ces chaumes, on les qualifie parfois de sommitales. On se rend compte que parfois au sommet, il y a aussi de la forêt. Et puis, il y a encore, quand moi j'ai commencé à travailler sur ces milieux-là, le débat était encore assez vif. On disait de ces chaumes aussi qu'elles étaient primaires. Au sens où elles avaient été héritées en fait de la dernière période glaciaire. Il y a même certaines espèces végétales, certaines petites plantes dans les cirques qu'on retrouve aussi dans les Alpes, ou qui ont des points communs avec des espèces subalpines, ou qui sont des espèces subalpines. Et donc il y avait cette idée un petit peu d'héritage. Bon, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, la notion de végétation primaire, j'y crois pas trop, ou j'y crois plus trop de toute façon, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les publications récentes sur les villes entières qu'on continue de trouver au milieu de l'Amazonie, mais ça ne marche pas non plus visiblement le primaire en Amazonie. Mais du coup, la question, c'était plutôt que de dire que ben non, que ce qui s'était pas passé, c'était de retrouver quelle avait été l'histoire de la végétation sur ces hautes chaumes. Hop, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Et puis pour retracer cette histoire des hautes chaumes, bon, il existe différents types d'outils. Ici, je vous ai remontré cette magnifique carte là du XVIe siècle de représentation des hautes chaumes. C'est vu depuis c'est une représentation qui est relativement connue. C'est vu depuis le côté vosgien plutôt, et puis on a une représentation là des hautes chaumes qui ressemble bien à des chaumes, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres documents là plutôt du XVIIIe siècle, des cadastres aussi qu'on a utilisés pour essayer de suivre un petit peu l'évolution de la végétation. L'exemple que j'ai pris là, c'est parce que le plan il est joli, mais c'est pas sur les hautes chaumes. Et puis on aimait bien aussi utiliser les cartes postales anciennes pour suivre l'évolution de la végétation. Ici on est nouveau dans le massif du Rosberg, et on se rend bien compte, hein, au début du XXe siècle, on a une production considérable de cartes postales. Surtout d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, où depuis le front, on envoyait des cartes postales un peu partout en France. Donc il y a un magnifique fond de cartes, de photographies en fait, du début du XXe siècle. Et puis bon, bah là, on se rendait bien compte de l'évolution de la végétation. C'est assez connu. Dès le XIXe siècle, il y a une déprise agraire. La forêt regagne du terrain sur la chaume, sur les chaumes. Pas forcément sur les chaumes les plus hautes. Là, on est au Rosberg, on n'est qu'à 1000 mètres d'altitude. Mais quand même, on pouvait suivre cette progression de la forêt. Mais tous ces documents-là, bon, bah, ça permettait de remonter quelques siècles. Il y en a d'autres. Notre travail à nous, il consistait à aller voir dans les sols, à faire des trous dans ces sols pour retrouver des marqueurs plus anciens. Ici, c'est mon petit clin d'œil à mon collègue Dominique Schwartz, qui est maintenant à la retraite, qui m'a initié au creusage de trous et à la pédologie. Ça, c'est sur le sommet du Falimont. Donc là, on est vraiment très haut. Là, c'est sur un site qu'on a étudié plus récemment. Ça, c'est le sommet du Batrykopf. Donc, on est toujours là aussi sur les hautes chaumes. Et puis, le premier outil qu'on utilise quand on fait des trous dans ces... Enfin, c'est pas le premier... Ou le premier qu'on a utilisé dans les années 2000, c'était le travail de Stéphanie Goepp, qui a réalisé une thèse, en fait. Eh ben, ces sols, elle les tamisait. C'est un travail vraiment de bénédictin ou de fourmi. Elle tamisait des gros échantillons de sol et elle récupérait des petits charbons de bois, mais pas des charbons de bois comme dans votre barbecue, des charbons de bois d'une taille de l'ordre de 1 mm, que certains appellent aussi des macro-charbons de bois, mais c'est un petit peu vicieux. Ces charbons de bois, on peut, en les observant avec des microscopes relativement puissants, on peut retrouver en fait la structure du bois. Ils gardent en fait en héritage, même quand ils ont brûlé, l'anatomie du bois. Et donc, on est capable de reconnaître les essences qui ont généré ces charbons de bois. Et puis ensuite, une fois qu'ils avaient été identifiés, ces charbons de bois, ils peuvent être aussi datés grâce à une méthode de datation qui en géosciences est devenue vraiment la méthode de datation la plus célèbre, la plus robuste et la plus utilisée, qui est le carbone 14 ou la datation radiocarbone, qui, à partir du moment où on brûle du carbone, en fait, permet d'obtenir une datation. Et donc, elle a quand même daté toute une série de charbons de bois. Ici, on les voit là, sur l'échelle du temps, toutes les petites barres noires, c'est des charbons de bois. Et puis, ceux qui sont au-dessus, là, c'est tous ceux qui ont été récoltés dans le massif du Honeck. Puis, tous ceux qui sont en dessous, c'est ceux qui ont été récoltés dans le massif du Rosberg. Et donc, eh ben oui, il y en avait plein des charbons de bois. Et ces charbons de bois, ils ne voyagent pas. C'est aussi pour ça qu'on aime bien ces archives et qu'on aime bien aller voir dans les sols, parce que ça ne s'est pas déplacé comme des sédiments, ça ne vole pas avec le vent comme les pollens. Donc, on avait vraiment affaire à un signal local et on se rendait compte qu'il y en avait plein, là, 2000 ans avant Jésus-Christ, fin de l'âge du bronze, plein de charbons de bois, encore à l'âge du fer, plusieurs charbons de bois et puis même encore plus récemment, des charbons de bois, y compris sur les plus hauts sommets des Vosges. Et des charbons de bois... j'ai pas l'identification ici, mais de hêtres, de sapins, d'espèces ligneuses, pas des charbons, parce qu'on peut aussi maintenant les meilleurs, ils arrivent aussi à identifier des charbons de bois de myrtille, de lande, donc évidemment il y a parfois aussi des choses à brûler dans les prairies, mais ici il y avait quand même déjà plein d'indices pour dire que ces chaumes, elles avaient été couvertes par de la forêt. Après la dernière ère glaciaire, là, on est déjà bien fini. Non seulement il y avait de la forêt, mais en plus la répartition et l'organisation dans le temps de ces charbons de bois permettait de dire que très certainement il y avait eu des phases de défrichement. qu'ils n'avaient pas brûlé de façon naturelle. Il y a aussi des études qui ont été faites pour montrer que pour brûler de la forêt dans les Vosges, c'est pas évident parce que les conditions sont pas réunies. Même si les actualités récentes, mais là on est un peu sorti des modèles là ces dernières années. Donc les incendies naturels, c'est pas quelque chose de fréquent en tout cas dans les Vosges. Alors ensuite un autre ça va, je suis bon au niveau du temps là. Ensuite alors un autre outil un petit peu plus technique. Ça c'est celui que j'ai développé moi pendant ma thèse. Ça s'appelle le proche infrarouge en fait. On prélève des échantillons de sol et puis on mesure en fait leur signature, on appelle ça dans le proche infrarouge. Et puis ça donne un petit peu comme une empreinte digitale. Et donc, on a prélevé énormément d'échantillons sur des sols récents, sur des horizons de sol de surface, dont on connaissait bien la végétation. Donc, plein d'échantillons de sol sous prairie, plein d'échantillons de sol sous forêt. Et puis, on a déterminé, en fait, qu'est-ce qui était l'empreinte digitale d'un sol sous prairie et qu'est-ce qui était l'empreinte digitale d'un sol sous forêt. Et puis ensuite, ben, on est allé tester ça sur les criminels ou sur les sols qu'on connaissait moins. Et donc, on est allé analyser cette signature jusqu'au plus profond des sols, jusqu'à l'endroit où on avait encore de la matière organique, parce que ça repose un petit peu sur la matière organique. Et puis là aussi, ben, on voyait des changements de signature, des changements d'empreinte digitale dans ces sols. Et ça nous a permis aussi là de reconnaître que dans les sols qui étaient sur ces sommets des Vosges, eh ben on avait des traces de forêt, on avait encore de la matière organique de forêt qui était conservée. Sachant que j'aurais peut-être dû commencer par vous dire ça, mais dans ces sols, on peut avoir de la matière organique qui a plusieurs milliers d'années, voire 3 l'ordre de grandeur là dans ces sols vosgiens qui conservent beaucoup de matière organique, qui avec le aidé un peu par le froid accumulent pas mal de matière organique. On allait jusqu'à 3-4 000 ans d'âge de la matière organique. Je vous passe les détails sur les modèles d'âge. Et donc un petit peu la synthèse de tout ça. C'était que ben les chaumes qui avaient été reconnues un petit peu comme primaires, elles étaient effectivement différentes des chaumes qui étaient un petit peu à plus basse altitude, dans ce sens qu'elles n'avaient pas connu de forêt depuis plus longtemps et que la recolonisation par la forêt après un défrichement ou après une période froide était quand même plus longue. Et ce qui expliquait que ces sols, ces environnements avaient quand même conservé des caractéristiques un petit peu plus spécifiques. Alors que dans les massifs un peu plus bas, c'était le cas ici du Rosberg, bon, c'est pas marqué là-dessus, mais c'est cet exemple-là, on avait des alternances plus fréquentes, on défrichait la forêt, mais une fois qu'on l'avait défrichée, si on abandonnait de nouveau la prairie, elle avait tendance à se recoloniser de façon plus rapide. Donc voilà pour vous montrer un petit peu comment ces outils, ils essayent de suivre la dynamique de la végétation. C'est devenu un sujet, et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça aussi, on nous pousse un peu à y retourner, c'est devenu un sujet qui est encore un peu plus d'actualité, parce qu'aujourd'hui avec le réchauffement climatique qui est relativement spectaculaire et rapide, cette recolonisation de la végétation, on la voit aussi en direct, on la voit aussi s'accélérer. Donc, c'est aussi bien important de comprendre comment est-ce que ça s'est passé il y a quelques milliers d'années ou il y a quelques centaines d'années, et puis comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. Quand on compare ça aussi avec les autres massifs ou avec, ne serait-ce qu'avec la limite de la forêt, dont on n'est pas bien sûr si elle est naturelle non plus, mais dans les Alpes, on a de la forêt qui monte jusqu'à 1800 mètres, dans les Alpes du Nord, pour la partie la plus proche, on va dire, des Vosges. Donc, c'était de toute façon pas très cohérent qu'à 1300 mètres, il n'y ait pas de forêt dans les Vosges. Hein. les gens qui travaillaient dans les autres massifs, ils rigolaient aussi un peu sur cette notion de forêt primaire en disant, ah bah oui, c'est l'exception vosgienne, quoi. Voilà donc ce que je voulais vous montrer un petit peu de mon travail. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu, on va revenir un petit peu en ville et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sous nos pieds. Alors, comment je vais... Je vais essayer d'improviser. Alors, ça va se passer à Strasbourg. Ça, c'est déjà... Je ne spoil pas en vous disant ça. Il est où maintenant mon WooClap? Ok, alors, bon, j'avais prévu vraiment de vous faire partie. En fait, ceux qui ont... Non, mais personne n'a de réseau, en fait. Hein. C'est pas la peine que je dise ceux qui ont de réseau ont le droit de jouer et puis les autres, non. Donc, effectivement, vous avez le droit de... Pour certaines questions, ça va marcher. Et puis, pour d'autres, non. Bon, alors, celles où on peut répondre par oui ou par non.
Mais il faut que je rentre quoi, parce que je ne sais pas le faire
avec le... Ouais, il faut juste que tu ailles sur WooClap.
Ouais, je suis sur WooClap.
Et le code de la session, ça s'appelle Sol en ville.
Donc, rejoignez un
événement, c'est ça? Ouais, tu dois avoir une fenêtre. Je crois que tu peux mettre que des majuscules. Ah. Attendez. Non, mais si tu vas sur le... T'as été sur l'application WooClap?
Je suis sur WooClap.
Il doit te... Non, mais il ne faut pas que tu te connectes avec ton compte. Il faut que tu...
Non, il y a écrit « Rejoignez un événement, ouais. Code de l'événement ».
Ben voilà, ben c'est Sol en ville. Le code de l'événement, c'est Sol en ville. Non, mais c'est normal. Attends, il faut que je lance le truc.
C'est une question interactive. Ben si, parce que sur mon téléphone...
Bon, c'est pas grave. Vous pouvez voter à main levée. On va pas faire. Il y en a qui. Les jeunes là, ils n'y arrivent pas. Il y a pas de réseau. Vous avez pas de réseau en fait. Alors, ma première question. Ouais, voilà. On va le faire. C'est pas grave. C'est pas grave, vous n'aurez pas votre pix. Alors ouais, il faut qu'on choisisse l'un ou l'autre. Donc d'après vous, est-ce qu'il y a des sols en ville? La question est un peu peut-être un peu triviale. Alors qui pense qu'il y a des sols en ville? Alors là, vous êtes obligé de lever la main. Si déjà bon, donc tout le monde pense qu'il y a des sols en ville. Non, le monsieur au fond, il pense qu'il n'y a pas de sols en ville. Tout le monde. Ok. Alors, c'est bien. C'est pas. Tant mieux. On va aller regarder. Ah, tac. Ça, on s'en fiche. Ah, punaise. Ah voilà, ça marche. Alors maintenant, est-ce qu'il y a partout des sols en ville? Donc, qui pense qu'il y a partout des sols en ville? Ah, c'est plus partagé là. Vous êtes moins sûr. C'est vrai, j'ai hésité à mettre la réponse oui peut-être aussi, mais je vois que c'est plus partagé. Alors ce que je vous, alors maintenant on va aller regarder. Je vais vous interroger ou on va s'interroger plutôt ensemble sur différents cas de figure qu'on peut trouver en ville. Donc mon premier cas de figure, il est hyper caricatural. Attendez, je vous le mets comme ça. C'est que trouve-t-on sous la cathédrale de Strasbourg? Alors il y en a qui veulent essayer de répondre sans avoir mes propositions. D'après vous, qu'est-ce qu'on trouve sous la cathédrale de Strasbourg? Ouais, des alluvions, de l'eau. Je crois que c'est dans mes propositions. C'est pas. Alors ah bon, il y en a qui ont déjà vu, alors, qui ont eu le temps de voir ce qui se passait. Alors mes propositions, c'était un sol vivant.
Non mais là c'est l'orangerie.
Ah punaise. Ouais. Je maîtrise pas non plus. Ouais pardon. Voilà, c'est ça. C'est les mêmes propositions de réponse. Alors, c'est un sol vivant. Il y en a qui pensent qu'il y a un sol vivant sous la cathédrale. Ah, alors c'est vrai que alors c'est vrai que d'après ce que je vous ai dit, il pourrait y avoir des bactéries. Pourquoi pas? Alors il y en a qui, alors des alluvions, effectivement. Des alluvions, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des alluvions sous la cathédrale? Ouais, c'est le Rhin. En fait, dans la plaine rhénane ou dans le fossé rhénan, il est à peu près intégralement rempli avec des alluvions du Rhin. Ça, c'est plutôt ce que nous on va appeler le sous-sol. Hein, d'ailleurs, il y en a plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et sous nos pieds, là, sous Strasbourg, ce que nous, on va appeler le sous-sol, eh ben, c'est ces alluvions du Rhin qui ont été déposées il y a longtemps au Quaternaire. Ils s'en déposent moins maintenant parce que les alluvions, ils restent dans les lacs suisses. Alors, des pilotis. Alors ça, c'était. Il y en a qui ont répondu des pilotis. Il y en a d'autres qui pensent que c'était des pilotis. Alors c'était un peu un piège parce que des pilotis, non, c'est pas des pilotis. Ouais, mais alors c'est pas des. J'ai révisé, c'est des pieux, mais c'est pas des pilotis parce que les pilotis, ça voudrait dire que la cathédrale s'est suspendue, ça serait un peu lourd. C'est pas des pilotis, ça c'était juste un peu pour jouer sur les mots, mais effectivement, à l'origine, ou en tout cas, on a retrouvé des traces dans les alluvions, justement, on avait mis avant la construction des pieux pour en fait consolider le sous-sol, parce que bon, ben voilà, on avait prévu de construire quelque chose de plutôt lourd. A priori, ces pieux, ils ont disparu entre guillemets. Ce qu'on retrouve, c'est un petit peu le fantôme, c'est un petit peu la matière organique, mais le bois, en fait, il a été entièrement décomposé. Mais on retrouve des formes, on retrouve en fait ce qu'on appelle en archéologie des fantômes. On voit encore la trace, mais il y a plus de bois en fait au sens. Et donc ça joue plus forcément son rôle d'ailleurs géotechnique, on pourrait dire. Mais bon, la cathédrale a l'air de tenir le coup quand même. Ah ouais, ça je connais. Alors ça je connais. C'est possible. Ça je. Et dans les. Ah ouais, c'est possible. Ouais, peut-être. Et ça, c'était en quelle année alors? Je connais pas. Ah ouais, d'accord, ok.
Vous allez là où il y a la poste, vous verrez, il y a un caron là.
C'est expliqué.
Alors, c'est assez illisible parce que tout est écrit
en gothique ou en.
Il faut le décomposer. Et c'est lui, c'est de l'architecte en chef. Si lui n'avait pas vu.
Et ils ont mis du béton en dessous alors de la cathédrale, c'est ça?
La cathédrale, c'est parfait.
D'accord. Ah, merci.
Sous la flèche, il y a un pilier.
Ah, ouais, il y avait un endroit plus sensible qu'un autre. Non, mais clairement, bon, les alluvions ne sont pas un extrême. C'est pas le meilleur matériau sur le plan géotechnique. Hein. D'ailleurs, on ne sait toujours pas. Enfin, les sismologues nous disent.
La phréatique a changé de niveau et c'est pour ça que les piliers ont
s'affaiblir. Oui, parce qu'évidemment, le principe du bois, enfin, et des pieux, et des pilotis, c'est qu'il se conserve tant qu'il n'y a pas d'oxygène et tant qu'il est mouillé. Et si on le met, si on l'aère trop, ça ne marche pas. Bon, alors, personne n'a répondu à un lac souterrain, mais vous connaissez peut-être aussi, il y a la légende comme quoi il y aurait un lac sous la cathédrale. Il y a d'ailleurs des illustrations aussi de un petit peu fantaisiste, oui, où il y a des bateaux, etc. Alors, la confusion vient peut-être sans doute aussi de la nappe, parce que parfois, j'ai aussi parfois des étudiants qui, quand on leur parle de nappe phréatique, pensent qu'il y a un lac ou une grotte souterraine, mais non, c'est les alluvions qui sont gorgées d'eau, donc il n'y a pas de lac. Et donc, mais c'est bien, alors, j'allais vous dire non, il n'y a pas de sol vivant, et je resterai même sur ma position de dire il n'y a pas de sol vivant, parce que je vous ai dit que le sol abritait énormément de vivants, mais c'est pas parce qu'il y a du vivant que nécessairement il y a un sol et qu'il reste quelques petites bactéries ou qu'il reste même beaucoup de bactéries ou des champignons sans doute d'ailleurs dans les sous-sols de la cathédrale très certainement, mais ça en fait pas forcément un sol avec des horizons à l'interface, etc. Donc ça répond pas tout à fait à la définition, mais vous m'avez quand même bien challengé avec ces histoires. Il y a très certainement du vivant, mais je suis pas tout à fait d'accord avec un sol vivant. Ok, alors allons-y, on va commencer aussi comme ça, puisqu'il y en avait qui a les bonnes réponses sans proposition. C'est quel sol trouve-t-on dans le jardin de l'orangerie ? Alors, j'imagine, vous connaissez, vous pouvez penser à n'importe quel parc, il n'y a pas de... Ouais, on peut dire un sol vivant, c'est dans les propositions aussi. Ouais, alors le sol, lui, il est toujours à l'interface. Donc, si on veut parler des niveaux plus bas, on n'est plus dans le sol. Eh ben, oui, ça, c'est toute la difficulté. Mais j'ai dit, l'ordre de grandeur, c'est un mètre. Mais alors, attendez, parce que c'est là qu'il faut que je joue sur mes trucs. C'est que ça, j'avais quand même prévu ça. Ouais, c'est pas le bon parc, mais ils ont un peu la même tête. Là, on est dans le parc des Contades, mais bon, parc de l'Orangerie, parc des Contades. Il y a une dizaine d'années, on avait fait une étude des sols avec un étudiant on avait eu l'autorisation de creuser des trous dans quasiment tous les parcs de Strasbourg. Enfin, on avait fait Pourtalès, Contade, Orangerie, le Jardin des Deux-Rives. On avait comparé un petit peu ça. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Une des particularités aussi quand on fait des trous en ville ou des trous là dans des parcs, donc une situation quand même bien spécifique, c'est que c'est hyper hétérogène. Quand on va faire un trou à un endroit, à un autre, on va se retrouver dans des situations finalement très très différentes. Ah ouais, alors l'orangerie a aussi effectivement une histoire assez complexe. Donc, un sol vivant, ça a déjà été proposé là derrière. Des remblais. Alors ça c'est très classique en ville déjà. On aime bien ramener du matériel. Tiens, ici je vais même pas proposer des alluvions. Alors ouais, qu'est-ce qu'on appelle remblai ? Ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est quelque chose dont je dirais qu'il n'est pas autochtone. Ça veut dire que c'est du matériel qu'on a rapporté. Et quand on rapporte du matériel, qu'est-ce qu'on va transporter comme type de matériel quand on est à Strasbourg ? Soit du matériel pour surélever quelconque. Bah, très souvent, ça va être des alluvions, hein, parce qu'on ne va pas aller chercher le matériel non plus à 200 km, parce que donc, très souvent, ça ressemble à des alluvions qui proviennent des gravières de n'importe où ailleurs. En général, on fait un peu des échanges entre les chantiers. Ça, c'est quand il n'y a pas vraiment d'intérêt agronomique particulier ou quoi. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on ramène ? De la terre. Et d'ailleurs, les paysagistes, les travaux publics, etc., ils appellent ça de la terre végétale. Alors ça, on n'aime pas du tout comme terme en sciences du sol, mais parce que ça veut tout dire et rien dire, mais on va ramener quand même une terre dans laquelle on va faire qui va servir de support, éventuellement un peu, qui va permettre de fertiliser, qui va servir de support pour planter de la pelouse, des arbres, etc.
C'est-à-dire quand on détruit quelque part.
Alors le remblai.
Des matériaux et hop.
Et c'est pas seulement à la mode maintenant. C'est typique de. Les archéologues le savent bien de l'époque romaine. À l'époque romaine, on reconstruisait toujours du nouveau sur les gravats. On n'évacuait pas les gravats. Et là, quand je disais c'est très hétérogène, j'ai parlé de remblai le plus classique, c'est les alluvions, mais les gravats, c'est aussi quelque chose de très classique. Et quand on fait des trous dans les parcs de Strasbourg, là, ça se voit, ça, sur les profils, ça se voit pas trop parce que la couleur est quand même dominée par la matière organique, etc. Enfin, c'est sale, entre guillemets. Mais on va trouver des briques, du béton, des déchets plastiques, toutes sortes de choses. À la fois des choses qu'on a ramenées en camion pour remblayer, mais aussi des choses, voilà, de la ville, j'allais dire. Enfin, toutes sortes de déchets. Donc, c'est extrêmement hétérogène. Il y a aussi tout un tas de choses qui sont remaniées. Il y a un moment, et pourtant, on avait essayé de prendre des précautions, on a creusé une fosse, on est tombé sur un réseau électrique, etc. Donc forcément, tout a... Mais en fait, il n'y en a pas... Si je vais dans les hauts chaumes et que je creuse un trou et que je tombe sur un réseau électrique, je me dis, punaise, c'est vraiment... J'ai tout faux. Alors que si je vais en ville, ça fait partie, en fait. Des réseaux, il y en a partout. Tout est remblayé. Tout à propos de la cathédrale, on a parlé de la période allemande. Tout le quartier de la Neustadt, il a été remblayé. Il est construit, il est surélevé. Il est sur des remblais. Alors, et c'est pas bien documenté. J'en ai encore discuté l'autre jour avec mon collègue archéologue. Certains pensent que c'est qu'il y a en partie des anciens remparts qui ont servi pour remblayer, mais en fait, on les retrouve quand on fait des trous, on les retrouve pas tant que ça. On retrouve plutôt des matériaux qui ressemblent aussi aux matériaux qui sont en dessous, quoi, parce qu'en fait, on a creusé à des endroits où on a creusé un peu dans des gravières pour surélever tout ça. Hein. Ça fait des volumes d'ailleurs gigantesques. Hein. C'est pas les remparts qui auraient suffi pour remblayer toute la Neustadt sur plus d'un mètre. C'est entre 1 et 2 mètres de surélévation. Hein. Oui, alors justement, on a fait une étude là il y a pas longtemps dans le jardin botanique serait le niveau le jardin botanique. Qui est légèrement déprimé serait le niveau d'origine avant Remblais. Bon, ça paraît assez crédible d'après la topographie, mais c'est pas si évident quand on fait des trous dedans, en fait.
Il semblerait que les derniers cours ont remblayé pour faire la voirie. À l'avant, donc, vous avez un niveau, et dans les
arrière-cours, il y a des zones qui peuvent être déprimées. Ouais, ça, c'est possible. Il y a sans doute tous les cas de figure.
Ils ont remblayé pour éviter les inondations.
Ouais, ça, bien sûr.
Et ensuite, ils ont travaillé sur l'île. Il n'y avait plus d'inondations possibles. Et voilà. Et c'est pour cette raison que, par exemple, l'église Saint-Paul est sous un autre niveau. L'église Saint-Paul est en dessous.
Ouais, d'accord.
Et sur les quais.
Ah oui, oui.
Les quais sont plus hauts. Les quais sont plus hauts parce que simplement il y avait l'église Saint-Paul à l'arrière, il y avait des artisans qui faisaient des bateaux, des trucs comme ça. C'était vaguement industriel, entre guillemets, et il n'y avait pas besoin de remblayer. Ils ont remblayé la partie urbaine.
Oui, oui, ben la partie qu'ils ont, enfin la Neustadt, quoi, la partie qui s'est étendue. Après. Et parce qu'après, évidemment, là aussi, on a fait des trous là récemment, toute la partie du Wacken. Il n'y a plus du tout de remblais. Et là, pour le coup, c'est en zone inondable. Hein. D'ailleurs, c'est le document le plus simple, j'allais dire, ou le plus évident pour travailler sur ces remblais, c'est le plan de prévention des risques inondation. On voit tout de suite ce qui n'est pas ou peu remblayé. Il y a un risque d'inondation avec la crue centennale de l'île. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Ouais, ben là, finalement, j'avais proposé plein de réponses. Un sol vivant, oui, parce qu'on va plutôt trouver le sol. Il est plutôt assez bien structuré. On trouve du vivant dans ce sol. C'est peut-être pas, il abrite peut-être pas une biodiversité extraordinaire, mais quand même plein de choses. Les pauvres, à l'orangerie, je pense que les pauvres taupes, elles doivent être chassées, mais pas les vers de terre. Et puis plein d'autres choses. Donc, ça a été remblayé. On le voit que le matériau c'est un espèce de tout venant, de mélange de gravats, de choses. Donc il y a eu des phases de remblais, pas forcément d'ailleurs de 1m50 dans la problématique inondation, mais plutôt bah voilà, au moment de construire cet espace. À l'époque de la construction du parc, ben à l'époque voilà, on pensait pas forcément à préservation des sols, utilisation de l'existant, et il y a eu plein de choses qui ont été ramenées. La terre végétale, il y en a, ouais, parce que en surface, et même aussi souvent qu'on a ramené, quand on va faire une nouvelle plate-bande ou refaire une plate-bande, on va ramener de la terre, hein. Ça c'est un peu des réflexes de paysagistes, même si parfois le matériau existant est déjà plutôt satisfaisant, mais bon, il faut aussi vendre des trucs, quoi. Et puis un sol de jardin. Alors j'avais mis cette proposition. Ça veut rien dire non plus pour moi, un sol de jardin. Je vois Florian qui dit non, mais c'est quoi? C'est parce que c'était un petit clin d'œil à l'histoire de l'orangerie, parce que l'orangerie, avant de devenir un jardin d'ornement, ça faisait partie d'une vaste zone maraîchère en fait au nord de Strasbourg. Donc j'aurais pu dire d'ailleurs un sol maraîcher, c'est pas tout à fait un sol de jardin, mais c'était quand même plutôt des petites parcelles, parce qu'on n'était pas dans de la production de masse, et donc une grande zone maraîchère là qui s'étendait d'ailleurs jusqu'à la Robertsau, et qui servait à alimenter en fait Strasbourg en temps où on était encore dans les circuits courts par la force des choses.
L'orangerie, c'est pas la même époque, hein. Il y a 100 ans d'écart.
Ah oui, oui. Ah non, non, mais j'ai pas.
L'orangerie a connu un mouvement souvent important, c'est quand il y a eu l'exposition universelle. Il y a eu énormément beaucoup de travaux, d'abord, de matériel, etc. Et il faut aussi prendre en considération l'excavation qu'ils ont dû faire pour le lac. Et donc là, il y a eu sûrement pas mal de terre qui est à disposition aussi. Qu'est-ce qui a été amené, tout ça, donc, je ne sais pas rien, mais bon, c'est une autre époque.
Ah oui, oui, non, mais je faisais pas, enfin.
Sans parler qu'il y a le tram, alors il y avait le tram qui passait à l'orangerie. Bon, pas dans l'orangerie actuellement, entre l'orangerie de l'Europe.
Sur l'allée, ouais, de la Robert.
Ça amenait beaucoup de mouvements. Donc, si vous voulez faire l'histoire, je crois que
ça. Ah oui, oui. Mes questions n'avaient pas vocation à être chronologiques. D'ailleurs, on a parlé des remblais de la Neustadt, c'était même pas prévu, mais on peut parler de tout ce qu'on veut. Alors, sous l'avenue des Vosges, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver? Alors, des remblais, un sol vivant. Vous allez me dire qu'il y a peut-être des bactéries aussi au pied des arbres. Ouais. Alors ma question, c'était vraiment sous l'avenue. J'ai essayé d'ailleurs de raboter un peu. J'ai essayé de trouver un compromis qu'on puisse reconnaître l'avenue. Mais oui, dans les pieds d'arbres, alors c'est quelque chose de différent. Maintenant, ma question, ça portait vraiment un peu qu'est-ce qu'on va trouver sous le macadam. Les sédiments, les alluvions, on va toujours en trouver, mais il faut descendre assez profondément. Un sol vivant, toujours pas. Et puis alors, je vous ai mis une petite.
Une racine des arbres qui
crachent. Bah, alors attendez, vous allez. Je crois que les racines des arbres, les pauvres, ils ne sont pas assez fous pour aller. Ils ont leur. C'est pour ça d'ailleurs que pour les arbres en ville, on est obligé de creuser des. Avant de planter les arbres, là, on fait des fosses. Assez colossal, mais parce qu'on sait bien que sorties de cette fosse, les racines, elles ont un petit peu du mal. Et non, c'était pas ça que je voulais montrer. Voilà, c'est pas avenue des Vosges. Ah voilà, on voit pas. Là, par contre, on voit pas très bien sur cette photo. C'est pas avenue des Vosges, mais c'est pas très important. C'est une coupe là, sous une route. Bon, la couche de goudron, celle-là, on la connaît, celle-là, on voit dessus. Sous la couche de goudron, il y a toujours une couche de remblais avec des propriétés quand même spécifiques, parce que le goudron, ça ne tient pas tout. Il faut qu'en dessous, ça supporte évidemment du passage. Alors, est-ce qu'il y a du béton? Pas forcément. Alors, parfois, il y a d'anciennes couches de béton, évidemment. Parfois, on retrouve plusieurs couches de goudron. Maintenant, on commence à utiliser des techniques un peu plus modernes. On broie le goudron pour le réutiliser plus loin, mais bon, c'est relativement récent et c'est pas systématique. Et puis là, encore en dessous, mais ça aussi, c'est typique. Hein, là, on a encore ouvert un trou il y a pas longtemps à Königshofen aussi sous une route. Encore énormément de remblais, de tout venant, de choses diverses et variées. Et puis ici, c'est seulement là, au-delà d'un mètre, qu'on retrouve. Ah punaise, je vois l'écran là où les couleurs sont géniales et là c'est nul. Il faut regarder là les photos. Et là on commence à trouver. Les niveaux naturels. Alors à Strasbourg, depuis tout à l'heure, on a parlé des alluvions du Rhin, mais on trouve aussi, quand on s'éloigne un peu vers l'ouest, on trouve aussi des alluvions de la Bruche, et pas seulement autour de la Bruche actuelle, mais une ancienne Bruche qui fonctionnait là dans le quartier Gare. On retrouve des paléochenaux de la Bruche qui sont bien anciens, hein, ou même qui datent d'avant la ville romaine même. Mais on retrouve du coup des alluvions qui sont un peu différents de ceux du Rhin. Et puis, quand on s'éloigne un peu, soit vers Schiltigheim, soit un peu plus vers l'ouest, on va aussi retrouver, je ne sais pas si c'est ça ici d'ailleurs, mais on va retrouver aussi des dépôts de limon éolien, les fameux leus qu'on retrouve dans le Korosberg, dans les champs et qui sont si fertiles. On les retrouve aussi sous la ville. Mais ces matériaux alluviaux, qu'ils soient éoliens, alluviaux, etc., qui sont des matériaux naturels, en place même, ils sont trop loin de la surface, ils sont trop compactés, enfin, ils sont recouverts de cette énorme couche un peu inerte pour avoir un caractère vivant. Hein, c'est pour ça que là aussi, j'aurais tendance à dire l'hypothèse du sol vivant. Ça ne marche pas. Mais ça n'empêche qu'il y a des spécialistes aussi des sols urbains qui vont décrire très précisément cette succession de couches. Et alors là aussi, la particularité, c'est l'hétérogénéité. Parfois même sous la même route, on va creuser à tel endroit, ouais, il y a eu tel réseau qui a été installé, puis on va creuser 100 mètres plus loin. Ah ben non, ben là, ils avaient refait la route une fois de plus, ou ils avaient fait tel autre réseau. Donc c'est extrêmement hétérogène et extrêmement compliqué aussi de cartographier finalement les sols en ville. Alors qu'est-ce que j'avais là? Ah ouais, bon, allez, alors on peut en faire une petite dernière, et puis de toute façon la suivante elle va pas s'y prêter. Ah, du gloubi-boule. Non. Ouais, voilà, il faut avoir la référence, mais pas la référence pédologue. Ouais, parfois entre nous on appelle ça comme ça, mais non, c'est pas un terme, ça n'a pas été repris, pas encore. Ok, alors là, c'était un petit clin d'œil à Solanville, parce que c'est eux qui m'ont attiré un jour de canicule sur l'îlot Starlet. Donc je ne sais pas si j'avais prévu aussi de vous montrer où c'était l'îlot Starlet, parce que c'est peut-être moins connu quand même que la cathédrale et non, c'est pas là. Je croyais avoir là. Hop. On peut revenir là. Donc l'îlot Starlet, c'est une ancienne infrastructure portuaire, et c'est là, si je me trompe pas, c'est cette partie-là. Donc c'est une zone qui va être urbanisée, ou qui est en train d'être urbanisée, mais qui n'est pas encore urbanisée. Hein. Ici vous avez le parc de la Citadelle, donc c'est pas tout. Hein? Justement, c'est l'objet de ma question. C'est pas encore assez clean. Ouais, la partie sud, voilà, exactement. Ben, je vois qu'il y en a qui connaissent très bien. Donc, la partie sud a été urbanisée finalement très récemment. C'était aussi l'objet là, de la visite qu'on avait faite. Décidément, pardon. Alors, des remblais liés aux installations portuaires. Alors, en tout cas, ouais, comme sur tous les autres sites, j'ai envie de dire oui, des remblais. Et puis oui, parce que là, il y avait des installations portuaires, donc très certainement liées aux installations portuaires. Un sol vivant. Alors, mon exemple, c'était sur la partie nord, celle qui n'est pas encore urbanisée. Donc, je crois qu'il y a encore, il restait pas grand-chose de vivant et on n'a pas encore remis de vivant à l'heure actuelle. Ouais, il y avait de l'herbe. Ouais, il y a de l'herbe. C'est vrai, il y a de l'herbe qui pousse. Donc, on peut dire c'est un début de formation de sol. Non, mais c'est vrai quand il y a des plantes pionnières qui viennent s'installer et puis quand c'est des, justement. Ah oui, ils avaient. Ok, ça c'est un. Alors. Ouais. Alors c'est vrai que ça ils ont. C'est vrai. Non, mais ils ont fait ça aussi. C'était peut-être pas exactement à cette parcelle-là que je pensais. C'est pour ça, mais je vais y venir tout de suite. Bon, bah des alluvions, on a vu qu'il y en a un peu partout, qu'ils aient été transportés, rapportés, déplacés, ou qu'ils soient, si on va un peu plus en profondeur, qu'ils soient là d'origine. Alors un sol dépollué, donc c'est un petit peu ce qui a été évoqué là par la ce qu'on appelle la phytorémédiation, donc en plantant des essences qui vont fixer un certain nombre de polluants. Ça je pense que c'est un petit peu cosmétique parce que d'une part ça marche pas avec tous les polluants et puis surtout ça prend du temps quoi. Il suffit pas d'en semer une année et puis hop les plantes prennent tous les polluants. En plus après il faut voilà, et donc oui, ça c'était à ça que je pensais. Il y avait quand on avait fait la visite, il y avait le responsable de l'opération qui nous avait expliqué. Et d'ailleurs un des atouts là de cette technique de dépollution par qu'ils ont employé, donc c'était effectivement ça demandait pas mal d'énergie parce qu'ils ont chauffé le sédiment pour détruire les polluants. Mais ce qui mettait en avant, c'est que ça a été fait sur place. Cette, je ne sais pas si on peut appeler ça une centrale thermique, ou enfin cette installation a été faite sur place, ce qui fait qu'on n'a pas transporté des matériaux, ou on n'a pas été mettre les matériaux pollués quelque part où ça dérangeait pas pour ramener d'autres matériaux. Et ça, c'est extrêmement coûteux en énergie, etc. Donc ce qui a été mis en avant là, c'est que il y a eu cette dépollution presque in situ du site. Maintenant sur la si ça a été non, si non, si
ils en sont pas au niveau où ils voulaient arrêter parce qu'après ils vont changer les...
Ah, en termes de profondeur.
Ouais, enfin, les coefficients, je ne sais pas par quel bout, mais parce que ça coûtait extrêmement cher. Tout au bout, il y avait...
Non, mais on s'est pollué d'un côté pour polluer de l'autre, parce que pour faire de l'énergie, il faut de la polluer. On peut déplacer la pollution. Hein,
sur Valozac, qui est l'endroit dont on parle.
Ouais. Oui, voilà. Toi, tu connais mieux comment.
La SPL de Rive est allée au bout du truc, et en plus, avec des choses assez hallucinantes, c'est-à-dire qu'en termes de coûts, au final, ça coûte à peine plus cher que si ça avait été traité selon les formats habituels, où on escarbe, on enlève.
Ouais, de déplacer tout.
À l'origine du projet, en fait, ils se sont rendus compte que donc on avait mis des remblais pour couvrir le site, puisque Starlet, historiquement, c'est un stockage de charbon, quoi. Donc, c'est polluer, c'est polluer, quoi. Et en fait, on avait mis des choses pour couvrir, et on s'est aperçu que dans les différentes strates qui avaient été mises avec le temps, il y avait des quantités non négligeables de matériaux qui étaient propres, enfin, qui n'étaient pas pollués. Donc là, l'idée était partie de là, c'était de dire tant qu'à faire, il y a des choses qui sont en place qu'on peut récupérer. Parce que classiquement, on aurait pu enlever tout jeter. Enfin, voilà. Et donc, il y avait une partie qui a été récupérée, qui a été qui va être utilisée. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a des matériaux géotechniques qui ont été retirés de ça, donc plutôt portants, enfin, des choses dures et qu'on peut utiliser comme sous-couche, et qui sont portants. Il y a des matériaux qui ont été réenrichis en compost mûr et autres qui vont servir après de terre végétale. Et ça, l'expérience fonctionne très, très bien. Et il y a une partie de terre qui a été dépolluée par les phénomènes thermiques et réenrichie en compost. Et qui sont
sont effectivement réutilisés aussi, avec la spécificité de, du travail qui a été mené par l'ESPN, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est qu'on a d'abord planté les espaces paysagers avant de se construire le bâtiment.
Oui, ça c'est dans la partie sud du coup. Ouais, parce que et puis parce que alors bon, là dans le cas du port, c'est un peu particulier parce qu'il n'y avait pas vraiment d'espace vert ou de, c'était quand même déjà hyper urbanisé, même si c'était pas des habitations, c'était une installation portuaire. Mais ce qu'on voit souvent dans des aménagements plutôt type lotissement, etc., c'est qu'on vient, on commence partout par la partie qualitative du sol, on dégage tout parce que sur le plan géotechnique, c'est pas intéressant. Pour le chantier, c'est pas intéressant. Et puis, on construit la maison, on construit le garage, on met du goudron. Et puis, à la fin, ce qui reste, le petit bout de jardin, on ramène encore de la terre. Souvent, il n'y a pas ce réflexe de se dire, mais il faut quand même garder l'existant. Et l'image que je donne souvent, c'est qu'un sol, et c'était un petit peu l'objet aussi de mon introduction, un sol, c'est quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de construit, il y a différents horizons, c'est un petit peu comme une maison. Et si vous prenez une maison, vous la mettez dans un camion et que vous allez la renverser 200 mètres plus loin, bah c'est plus la même maison. Vous allez être moins content de votre maison. Bah avec le sol, c'est un petit peu pareil, quoi. On peut pas juste le mettre dans un camion, le verser un peu plus loin, l'étaler et dire bah voilà, votre sol, il est toujours là. Ça, c'est un raisonnement de travaux publics, c'est un raisonnement parfois de travaux type paysagistes, enfin y compris des gens qui font du coup des aménagements plutôt d'espace vert, mais en fait, nous, notre point de vue du sol, c'est que c'est quelque chose de construit et qu'il y a plein de propriétés qui sont héritées d'ailleurs sur le temps long, une structure du sol, une architecture du sol, une vie dans le sol, hein, parce que quand on la met dans le camion, quand on met dans le camion, qu'on le bench plus loin, la structure vivante aussi, c'est tout cet écosystème, en fait, il est aussi, évidemment, il est aussi détruit, enfin, pas entièrement, quoi, tout n'est pas forcément mort, mais c'est une organisation qui est complexe, et on peut pas juste, et voilà, ça marche pas juste de dire, oh, ben, là, il nous dérange un peu, ou on préfère avoir ce sol-là plutôt que là, donc déplaçons-le, c'est pas tout à fait... Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, et du coup de mon point de vue, qui est quelqu'un qui travaille plus dans des environnements moins anthropisés, il y a quasiment pas de sol en ville, quoi, parce qu'on l'a vu, bah, de temps en temps il y a de la vie, on reconstruit des choses, il y a des petites bribes dans les parcs, dans les jardins, mais sous le macadam. Sous la cathédrale, avec tout le respect qu'on peut avoir pour la cathédrale, il n'y a pas vraiment de sol au sens de cette interface vivante que je vous ai décrit au début. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, il ne faut pas essayer de comprendre ce qui se passe, de faire en sorte quand même que, bah déjà, ce n'est pas pour autant qu'il faut le polluer, parce que ça reste quand même... et à Strasbourg, on le sait bien, les sols, ils contiennent de l'eau. Et de ce point de vue-là, la fonction, même quand il n'y a plus trop de vivants, cette fonction, elle reste quand même présente. Et donc, tout ça nécessite d'être toute cette diversité, toute cette mosaïque de choses qu'on va trouver en ville. En fait, ça nécessite en fait d'être pris en compte quand même pour aménager la ville, pour aller plus loin, quoi. Pas que avec des bulldozers et des camions, quoi. Voilà, j'avais encore une ou deux petites questions, mais je crois que en plus on doit bientôt libérer la salle, alors je vais. Oui, et bien sûr, vous avez aussi le droit de poser des questions.
C'est parce que c'est pour l'enregistrement, en fait.
Ah, pardon. Par rapport à l'eau que les sols contiennent, on parle beaucoup de la rétractation des argiles. Dans le centre de Strasbourg, et est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu?
Ouais, alors je veux pas trop dire non plus de bêtises parce que c'est en fait une question plutôt géotechnique. Je suis pas non plus vraiment spécialiste de géotechnique, mais dans le centre de Strasbourg, on parle de la rétractation des argiles.
Ben oui, il y a même une maison qui s'est à moitié écroulée.
Ouais, alors bon, ça, c'est, ouais, alors ok, mais c'est du bon. Là encore, c'est parce que on n'a pas toujours le même langage, parce que à ma connaissance, dans le sous-sol à Strasbourg, il y a pas d'argile. Mais il se peut qu'il y en ait localement, ou je le disais tout à l'heure, les alluvions, ils peuvent être aussi de nature variable et ils sont pas toujours excellents sur le plan géotechnique. Mais je pense pas vraiment que je dis pas que ponctuellement ça peut pas être un sujet, mais je pense pas que ce soit vraiment un sujet à Strasbourg. Par contre, les sous-sols où il y a beaucoup d'argile, parfois ça, c'est un vrai problème géotechnique, agronomique, ça peut poser des problèmes, mais il n'y a pas vraiment de... En tout cas, ici, il y en a, c'est pas un problème, c'est pas une question étendue dans le sous-sol de Strasbourg. Ouais.
Quels sont vos rapports avec l'archéologie préventive et travaillez-vous avec et quels résultats en tirez-vous là, donc?
Oui, il se trouve que j'ai même travaillé pour l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive. J'ai, avec ma collègue qui travaille toujours à l'INRAP, on avait fait tout le suivi de la LGV est-européenne, là, pour la partie alsacienne. Et je continue, en fait, et dans notre équipe de recherche, il y a des archéologues qui sont rattachés. Et donc, je continue de travailler avec des archéologues, aussi d'ailleurs les archéologues de l'université. Je monte là parce qu'il y en a qui ont leur bureau là, dans les étages. Et oui, donc je vais régulièrement sur des chantiers. Mon expérience d'ailleurs des sols urbains, c'est souvent à travers les chantiers archéologiques. Je disais que j'avais été à Königshofen, on avait fait des trous à Königshofen la semaine dernière. Bon, là, c'est pas vraiment chantier archéologique, mais il y a des archéologues qui suivent le chantier de réseau de chaleur urbaine. Et donc, oui, et typiquement, par contre, dans mes travaux aussi hors ville, je travaille avec les archéologues parce que souvent, on échange des informations, et puis eux ont, je dirais, un accès à la datation. Pour nous, c'est toujours un grand sujet. C'est pas tout de dire oui, là, il y avait de la forêt, il y avait de la prairie, machin. C'est souvent difficile de dire quand. Et avec l'archéologie, on a souvent accès à ces informations chronologiques qui sont plus difficiles à obtenir en géosciences, ou souvent avec des techniques qui coûtent très cher, etc. Donc, quand on a l'opportunité d'avoir une information archéologique qu'on peut croiser avec nos informations sur les sols ou les sédiments, c'est vraiment un atout pour notre travail. Et après, les archéologues, ils nous sollicitent aussi pour expertiser les matériaux naturels.
Quels sont vos résultats avec cette archéologie au niveau des sols sous Strasbourg ?
Une autre question, on dit que les sols augmentent, c'est-à-dire que la période romaine se trouve à 3 ou 4, 5 mètres en dessous du niveau actuel.
Oui, alors ça c'est une vision, je dirais, très anthropique, parce que justement les sols, alors dans certains cas ou en montagne, enfin dans certaines positions spécifiques, oui, mais les sols dans leur fonctionnement, ce ne sont pas des couches, les couches que je vous ai montrées, les horizons là, ce ne sont pas des couches qui se superposent, c'est des couches qui se réorganisent. Donc les sols en eux-mêmes ne montent pas. Par contre, en ville et à Strasbourg, oui, les sols, ils sont montés parce que, ben oui, à l'Antiquité, les routes, on a parlé des maisons tout à l'heure, mais les routes, quand on réparait les routes, on rajoutait des couches, donc on montait. Quand on reconstruisait, il y a eu plusieurs phases d'occupation à l'Antiquité, on montait. Pareil, au Moyen-Âge, on a continué à rajouter en fait des couches, mais c'est pas un processus naturel, c'est un processus purement anthropique. Par contre, ça, oui, j'ai le souvenir là d'un chantier, ça remonte maintenant il y a quelques années, rue des Juifs ou rue des Halbards, je me souviens plus exactement, Ouais, donc vraiment dans le cœur antique de Strasbourg, où il y avait des vestiges antiques et où la couche d'occupation humaine faisait, je veux pas dire un chiffre exact, mais 2 ou 3 mètres, quoi. Donc effectivement, ça, il y a un processus d'accumulation, mais qui est vraiment, c'est la construction de la ville, hein, et c'est assez typique, hein, en Orient, il y a des villes, là, il y a des telles qui ne sont que, en fait, quand on construisait les maisons en terre, au bout de quelques années, elles s'écroulaient et on en reconstruisait par-dessus. Et c'est ces fameuses villes qui sont maintenant aujourd'hui parfois plus des villes, mais juste des petites collines, c'est cette construction, quoi. Où on n'avait pas aujourd'hui, on a un peu ce réflexe quand on construit quelque chose, on passe le coup de bulldozer, mais c'est quelque chose de relativement récent à l'échelle de l'histoire humaine, en fait.
Les fouilles romaines de Félix-Sophène, on voit bien la différence entre il y a 2000 ans et aujourd'hui, enfin, la montée du niveau du sol.
Vous me posez une question ou vous me... Ouais, mais je pense...
On imagine les premiers étages, ils étaient comme un peu en contrebas.
Ouais. Alors, j'ai pas suivi. Il y a eu des nouveaux. Enfin, il y a eu plusieurs fouilles à Königshofen parce qu'il y a une bonne partie de construction antique. Mais j'ai pas suivi les dernières fouilles là. J'ai parlé de Königshofen tout à l'heure, mais c'était juste un suivi de réseau et il y avait pas de site antique. Mais oui, j'imagine c'est la même chose à Königshofen, là, qu'au centre. Alors peut-être parce qu'il y a une histoire urbaine quand même un peu moins complexe que dans le centre urbain, c'est peut-être un peu moins surélevé. Mais de toute façon, à Königshofen, il y a moins aussi la problématique d'inondation parce qu'on est déjà un peu sur le terrain. Naturel est déjà un peu plus élevé par rapport à Strasbourg et par rapport au cours de l'île, quoi. Donc je pense qu'il y avait aussi une des implantations de ce côté-là parce que c'était un peu moins exposé aux inondations. Enfin, ça, c'est une supposition. Hein.
Oui, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène qu'on néglige un tout petit peu, c'est que c'est le vivant aussi qui fait que le sol recouvre le minéral. C'est-à-dire que je vais prendre un truc tout bête. Vous avez des pas japonais dans votre jardin. Chaque année, vous êtes amené à gratter ce que les vers de terre, taupes et autres bestioles ont finalement ramené par-dessus. Et en réalité, c'est pas forcément le sol qui monte. C'est que le sol étant mouvant et le minéral ne l'étant pas, le minéral finit petit à petit par être enseveli par ce sol qui continue de travailler tout le temps, quoi.
Alors, il y a plusieurs processus qui sont parfois contradictoires. Alors, effectivement, si vous avez des pavés ou même, on le voit, on voit la terre fine qui a tendance à remonter par-dessus. Parfois, on peut même observer le travail des fourmis qui remontent du matériel. Mais effectivement, tout ça, il remonte du matériel qui est en dessous. Donc, tout finit par se tasser. Enfin, voilà, s'il n'y a pas d'apport de matériel, de toute façon, hein, il n'y a pas... On ne peut pas surélever le sol. Et effectivement, c'est plutôt des mouvements relatifs entre des particules fines et des particules plus grossières. Parfois, il y a des mouvements d'ailleurs avec le gel inverse. Parfois, on dit dans certains champs que les pierres poussent parce que les pierres remontent à la surface. Mais tout ça, c'est ce que je décrivais. Hein. Parmi les échanges de matériaux, j'ai parlé des échanges liés au vivant, mais il y a aussi des échanges liés à la physique du sol qui fait que certains éléments plus gros ou plus petits ont tendance plutôt à être remontés par-dessus les autres ou à redescendre. Donc, il y a des réorganisations. Et en particulier parce que on est dans cette zone en fait qui est au contact avec des changements de température, avec l'atmosphère, qui est en contact avec le vivant, et donc tout ça c'est vivant en fait, et ça se réorganise.
Parce que quand on parle de création du sol, on a cette image de matière organique qui tombe et qui va venir réenrichir le sol, et au fur et à mesure, on a quand même cette impression que ça monte, alors que non, il y a un équilibre
c'est un cycle, parce que la matière organique, elle est décomposée par le vivant. La litière, elle est incorporée dans, en général, ce qu'on appelle le premier horizon, l'horizon A, et en fait, c'est un cycle. On parle d'ailleurs pour la matière organique. Tout à l'heure, j'ai pour ça, je voulais pas rentrer dans ces détails-là. On parle pas d'âge. Je vous ai parlé de milliers d'années, mais on parle de temps moyen de résidence. Parce qu'en fait, c'est en permanence recyclé. Alors évidemment, dans certains milieux froids, etc., on va avoir tendance quand même, le stock, il augmente avec le temps. Quand le temps moyen de résidence est très long, Et si on laisse notre sol tranquille, le stock, il augmente un petit peu, mais le stock, il peut aussi diminuer. Et c'est tout l'enjeu là sur les questions de sol et de réchauffement climatique, parce que le sol pourrait stocker en théorie plus de carbone pour qu'il y en ait moins dans l'atmosphère, mais c'est extrêmement instable. Et notamment les techniques un peu qu'on essaye pour compenser nos émissions de CO2, les techniques qu'on teste beaucoup maintenant pour essayer de mettre plus de carbone dans le sol. Souvent, le problème, c'est que c'est du carbone qui reste pas très longtemps dans le sol. Donc, d'apporter plein de carbone dans le sol, si c'est pour qu'au bout de 2-3 ans, souvent la matière organique fraîche, au bout de 2-3 ans, elle sera ressortie, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, c'est aussi extrêmement complexe.
Même juste naturellement, pas forcément par le fait de faire un labour ou quoi que ce soit qui va ressortir tout, même juste naturellement.
Ah oui, complètement. Ben, les bactéries, en fait, pour parler que d'elles, les bactéries, elles consomment la matière organique, elles respirent et elles, ce qu'on appelle la minéralisation. Et donc, elles libèrent les éléments minéraux qui sont fixés avec la matière organique, qui vont être fondamentaux pour les plantes, qui vont faire que le stock va se renouveler aussi d'éléments minéraux. Et le carbone, sous forme de CO2, il ressort du sol. Et ça, c'est un phénomène parfaitement naturel. Il faudrait, sinon ça voudrait dire qu'il n'y a pas de vie dans le sol. Enfin, qui dit vie, qui dit aussi manger, quoi. Hein. Et ces bactéries, elles ont besoin de manger et de respirer. Et donc, elles rejettent, elles relarguent le CO2. Elles consomment le carbone, arrive effectivement le plus souvent par la litière. Enfin, en tout cas, en forêt, le schéma est bon là, elle arrive par les feuilles mortes, etc. Et c'est aussi tout le problème de l'agriculture, parce que dans l'agriculture, la grande partie de ce que les plantes transforment, on le sort du champ et ça revient pas au sol, quoi. Donc, pour l'instant, sur les techniques, on va dire, on essaye plutôt de faire des techniques déjà qui ne déstockent pas du carbone. Ça c'est déjà bien.
Et pour votre avis sur le biochar,
c'est très à la mode. Ça c'est très à la mode, c'est sûr. Vous voulez dire pour stocker du... Ouais, bon, je pense que ça... Je sais pas. Je veux pas me prononcer là-dessus. Je sais que c'est hyper à la mode. Enfin, c'est hyper à la mode, je devrais dire, en recherche. Il y a plein de gens qui font des... C'était très à la mode il y a 10 ans, en tout cas, mais j'ai vu récemment qu'on continue à faire pas mal de recherches, ouais, avec les apports de biochar dans le sol. Mais j'ai l'impression que c'est pareil. C'est un peu, ça fait partie de cette catégorie de choses où on stocke du carbone, mais pas pour très longtemps, quoi. Donc ça, et puis ça, puis ça plafonne assez vite aussi, quoi. On arrive à en stocker un peu, mais après, quand on continue à rapporter des nouveaux stocks, ça plafonne, quoi. Donc c'est pas, il y a pas, enfin de toute façon, on s'en doute pour cette histoire de réchauffement climatique. Enfin voilà, il faut pas s'attendre. Biochar, ça consiste en fait à mettre du sorte de charbon de bois, en fait, dans le, donc en fait c'est du carbone qui va être relativement inerte et qui va pas être consommé, du coup, qui lui va être plutôt stable. Et puis en plus, il a aussi d'autres propriétés, il va aérer le sol, il va avoir une capacité à retenir l'eau aussi. Enfin, il y a pas mal d'atouts agronomiques, quoi. Et donc, ou dans les fosses, ouais, voilà, donc c'est, oui. Bon, ça peut, je pense que ça peut pas faire de mal, mais je pense que c'est pas non plus la solution miracle, quoi. Ça y est, il y a encore personne pour nous mettre dehors. Ils nous ont enfermés, alors, ça veut dire ça. Ouais, non, mais j'avais encore, mais c'était bien là, la discussion. Non, mais j'avais encore une ou deux questions, mais c'était un peu de la même nature. Et donc c'était pas. Non, c'est bien. Là, on a déjà discuté de plein de choses. Je vais mettre mon. J'étais arrivé.
Ben oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais déjà te remercier pour l'intervention. Vous rappelez aussi en deux petits mots, on a laissé une fiche Pardon, je te coupe.
Non, non, c'était juste pour dire que voilà, j'étais bien au bout là. J'avais pas mis ma slide de fin, mais pour sonner la fin, mais comme il y avait encore la discussion. Vas-y, vas-y.
Non, je voulais surtout pas couper d'ailleurs la dynamique. En fait, on nous avait normalement des respectives 8 heures. Bon, on n'est pas très éloignés. Je voulais vous rappeler que donc à peu près tous les mois, on vous propose des conférences. Il y a aussi pas mal d'ateliers, enfin diverses choses, balades des compagnies qui sont proposées. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est proposé par Sol en Ville, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Il y a une petite fiche à la